Chapitre 9. Le marquis évitait de parler de sa nièce, mais il eut avec l'abbé de longs et secrets entretiens. Quand la société était réunie, il demandait souvent de la musique. On s'empressait d'y pourvoir, parce que chacun se dispensait volontiers de la conversation. On passa de la sorte quelque temps. Puis l'on s'aperçut que le marquis faisait ses préparatifs de départ. Un jour, il dit à Wilhelm, « Je ne demande pas à troubler les restes de ma chère nièce, qu'ils demeurent dans les lieux où elle aima, où elle souffrit. Mais il faut que ses amis me promettent de me visiter dans sa patrie, dans le lieu où la pauvre enfant naquit et fut élevée. Il faut que vous voyiez les colonnes et les statues dont elle avait conservé un vague souvenir. Je vous mènerai sur les rives où elle aimait à ramasser de petits cailloux. Vous ne pouvez, mon jeune ami, vous dérober à la reconnaissance d'une famille qui vous est si redevable. Je partirai demain. J'ai raconté à l'abbé toute l'histoire. Il vous la répétera. Il a bien voulu m'excuser quand la douleur m'interrompait. Un étranger fera ce récit avec plus de suite. S'il vous plaît de m'accompagner dans mon voyage en Allemagne, comme l'abbé vous l'a proposé, j'en serai charmé. Ne laissez pas votre Félix. Chaque fois qu'il nous causera quelque petite gêne, nous nous souviendrons de vos soins pour ma pauvre nièce. » Le même soir, on fut surpris par l'arrivée de la comtesse. Wilhelm fut saisi d'une violente émotion lorsqu'elle parut. Elle-même, quoique préparée, fut obligée de s'appuyer sur sa sœur, qui se hâta de la faire asseoir. Quelle simplicité extraordinaire dans ses vêtements! Comme elle était changée! Wilhelm osait à peine jeter les yeux sur elle. Elle le salua d'un air gracieux et ne put dissimuler, sous quelques mots de politesse, son émotion et ses sentiments. Le marquis s'était retiré de bonne heure et la société n'était pas encore disposée à se séparer. L'abbé tira un cahier de sa poche. « Je me suis hâté, dit-il, de recueillir cette histoire étrange telle que le marquis me l'a racontée. S'il est une occasion où l'on ne doive épargner ni son papier ni son encre, c'est quand il s'agit d'écrire en détail des événements remarquables. » On mit la comtesse au fait des circonstances, et l'abbé lut le récit suivant, dans lequel il faisait parler le marquis. « J'ai beaucoup vu le monde, et cependant mon père est encore, à mes yeux, l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Son caractère était noble et droit, ses idées larges, et je puis dire, grandes. Il était sévère envers lui-même. On trouvait dans tous ses plans une suite irréprochable, dans tous ses actes, une mesure constante. C'est pourquoi, autant on se trouvait bien de vivre et de traiter avec lui, autant on se trouvait bien de vivre et de traiter avec lui, autant, par ses qualités mêmes, lui était-il difficile de s'accommoder au monde, parce qu'il exigeait de l'État, de ses voisins, de ses enfants et de ses domestiques, l'observation de toutes les lois qu'il s'était imposées à lui-même. Il exagérait, par sa sévérité, ses exigences les plus modérées, et il ne jouissait jamais de rien, parce que rien n'arrivait comme il se l'était représenté. Dans le temps même où il bâtissait un palais, où il plantait un jardin, où il faisait l'acquisition d'un grand domaine dans la position la plus belle, je l'ai vu profondément et amèrement convaincu que le destin l'avait condamné à la gêne et aux privations. Dans son extérieur, il observait la plus grande dignité. Lorsqu'il plaisantait, c'était toujours de manière à montrer la supériorité de son esprit. Le blâme lui était insupportable, et je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie tout à fait hors de lui-même, un jour qu'il entendit parler d'un de ses établissements comme d'une chose ridicule. C'est dans cet esprit qu'il avait disposé de ses enfants et de sa fortune. Mon frère aîné fut élevé en homme qui avait à espérer de grands biens. J'étais destiné à l'Église, et mon plus jeune frère devait être soldat. J'étais vif, ardent, actif et prompt, habile à tous les exercices du corps. Mon jeune frère paraissait plus disposé à une quiétude rêveuse, à donner aux sciences, à la musique et à la poésie. Ce fut seulement après la lutte la plus pénible, et quand il fut pleinement convaincu qu'il voulait l'impossible, que notre père consentit, quoique avec répugnance, à nous laisser changer de carrière l'un avec l'autre. Et bien qu'il nous vît tous deux satisfaits, il ne pouvait en prendre son parti, et assurer qu'il n'en résulterait rien de bon. Plus il vieillissait, plus il se sentait séparé de toute société. Enfin, il vécut presque seul. Un vieil ami, qui avait servi dans les troupes allemandes, devenu veuf au service et qui s'était retiré avec sa fille, âgée d'environ 10 ans, finit par être la seule société de mon père. Il acheta une jolie terre dans le voisinage, il visitait son compagnon d'armes à certains jours et certaines heures, et il amenait quelquefois sa fille avec lui. Il ne contredisait jamais son ami, qui finit par s'accoutumer à lui parfaitement, et le souffrait comme le seul homme supportable qu'il connût. Après la mort de notre père, nous remarquâmes que cet homme avait été fort bien pourvu par notre vieillard et qu'il n'avait pas perdu son temps. Il agrandit ses domaines, sa fille pouvait attendre une belle dot. Elle était devenue grande et d'une remarquable beauté. Mon frère aîné me disait quelquefois, en badinant, que je devrais prétendre à sa main. Cependant, frère Augustin avait passé ses années au couvent dans le plus singulier état. Il s'abandonnait absolument aux douceurs d'une sainte exaltation, à ses impressions, moitié spirituelles, moitié charnelles, qui, après l'avoir élevé quelque temps au troisième ciel, le laissait ensuite retomber dans un abîme de faiblesse et de vague souffrance. Du vivant de notre père, on ne pouvait songer à aucun changement. Et qu'aurait-on désiré ou proposé? Mais ensuite, Augustin nous visita souvent. Son état, qui d'abord nous affligea, devint peu à peu beaucoup plus supportable, car la raison avait pris le dessus. Mais plus elle lui promettait, avec certitude, une satisfaction et une guérison complète sur la pure voie de la nature, plus il demandait vivement qu'on le relevât de ses vœux. Il nous fit entendre que ses vœux étaient dirigés sur Sperata, notre voisine. Mon frère aîné avait trop souffert de la dureté de notre père pour rester insensible à l'état de son cadet. Nous en conférâmes avec le confesseur de notre famille, vieillard vénérable, auquel nous découvrîmes le double dessein de notre frère, en le priant de conduire l'affaire et de la mener à bien. Contre sa coutume, il hésitait. Et lorsqu'enfin Augustin revint à la charge et que nous recommandâmes plus vivement l'affaire au prêtre, il dut se résoudre à nous découvrir un étrange mystère. Sperata était notre sœur de père et de mère. L'époux, déjà vieux, avait cédé à l'empire des sens et usé de ses droits, à un âge où ils semblent abolis. Une aventure pareille avait égayé le pays peu de temps auparavant, et notre père, pour ne pas s'exposer à son tour au ridicule, résolut de cacher ce fruit tardif d'un amour légitime avec autant de soin qu'on a coutume de cacher les fruits accidentels et trop hâtifs de la passion. Ma mère accoucha secrètement. L'enfant fut emporté à la campagne, et le vieil ami de la maison, qui, avec le confesseur, était seul dans le secret, se laissa aisément persuader de produire l'enfant comme étant sa fille. Le confesseur s'était seulement réservé le droit de découvrir le secret en cas de nécessité absolue. Notre père était mort. La jeune fille vivait sous la surveillance d'une vieille femme. Nous savions que le chant et la musique avaient ouvert à notre frère la porte de la maison, et comme il nous pressait toujours davantage de rompre ses premiers liens pour en former de nouveaux, il fut nécessaire de l'instruire, aussitôt que possible, du danger qu'il courait. Il jeta sur nous des regards de fureur et de mépris. « Gardez, s'écria-t-il, vos contes invraisemblables pour les enfants et les sots crédules. Vous n'arracherez pas Sperata de mon cœur. elle est à moi. Désavouez sur le champ votre horrible fantôme, qui ne ferait que me torturer inutilement. Sperata n'est pas ma sœur, elle est ma femme. » Il nous apprit, avec ravissement, comme cette fille céleste l'avait tirée de son isolement, contraire aux vœux de la nature, et l'avait introduit dans la vie véritable. Comme les deux cœurs étaient à l'unisson, ainsi que les deux voix, et comme il bénissait toutes ses souffrances et tous ses égarements, parce qu'il l'avait tenue jusqu'alors éloignée de tout le sexe, et qu'il pouvait maintenant se donner tout entier à la plus aimable des femmes. Nous fûmes saisis d'horreur à cette découverte. L'état d'Augustin nous désolait, nous ne savions que résoudre. Il nous jurait que Sperata était enceinte de lui. Notre confesseur fit tout ce que lui inspirait son devoir, mais le mal n'en devint que plus grave. Les liens de la nature et de la religion, de la morale et des lois civiles, furent attaqués par mon frère avec la dernière violence. Rien ne lui semblait sacré que le lien qui l'unissait à Sperata. Rien ne lui paraissait respectable que les titres de père et d'époux. « Eux seuls, disait-il, sont conformes à la nature. Les autres ne sont que chimères et préjugés. Des peuples célèbres n'ont-ils pas approuvé le mariage du frère et de la sœur? N'invoquez pas vos dieux. Vous ne les attestez jamais que pour nous aveugler, nous écarter du chemin de la nature, et pour transformer en crime, par une infâme contrainte, les plus nobles penchants. Vous réduisez aux plus grands égarements de l'esprit, aux plus honteux désordres du corps, les victimes que vous enterrez vivantes. Je puis parler, car j'ai souffert, comme personne, depuis la plus haute et la plus douce ivresse de l'extase jusqu'au désert épouvantable de la défaillance, du vide, de l'anéantissement et du désespoir. Depuis les plus sublimes visions des créatures célestes jusqu'à la plus absolue incrédulité, jusqu'à la négation de moi-même. J'ai bu toute cette affreuse lie du calice au bord enduit de miel, et le poison a pénétré jusqu'au fond de mon être. Et dans le temps où la bonne nature m'a guéri par ses plus grands bienfaits, par l'amour, où je sens de nouveau, dans les bras d'une femme divine, que je suis, qu'elle est, que nous sommes une seule vie, où de cette union vivante un nouvel être va recevoir le jour et nous sourire, vous m'ouvrez les flammes de votre enfer, de votre purgatoire, qui ne peuvent brûler qu'une imagination malade, et vous les opposez à la volupté vive, véritable, indestructible du pur amour. Observez-nous, sous les cyprès qui lèvent au ciel leurs cimes austères, le long de ces abris, où les citronniers et les orangers fleurissent à nos côtés, où le myrte élégant nous présente ses tendres fleurs, et puis essayez de nous alarmer avec vos pièges sinistres, noirs ouvrages des hommes. » Il persista longtemps de la sorte à refuser obstinément de croire notre récit. Enfin, comme nous en attestions la vérité, comme le confesseur lui-même la confirmait, il ne se laissa pas déconcerter et s'écria « N'interrogez pas l'écho de vos cloîtres, ni vos parchemins vermoulus, ni le dédale de vos fantaisies et de vos ordonnances. Interrogez votre cœur et la nature. Elle vous apprendra ce qui doit vous faire horreur. Elle vous montrera, d'un doigt sévère, ce qu'elle frappe d'une malédiction éternelle, irrévocable. Voyez les lys. L'époux et l'épouse ne naissent-ils pas sur la même tige? La fleur qui les a produits ne les unit-elle pas tous deux? Et le lys n'est-il pas l'emblème de l'innocence? Et son union fraternelle n'est-elle pas féconde? Ce que réprouve la nature, elle le déclare hautement. La créature qui ne doit pas exister ne saurait naître. La créature dont la vie est usurpée est bientôt détruite. La stérilité, une existence misérable, une décadence précoce, voilà les malédictions de la nature, les signes de sa colère. Elle ne châtie que par des suites immédiates. Regardez autour de vous, et ce qu'elle défend, ce qu'elle maudit, frappera vos yeux. Dans le silence du cloître et dans le tumulte du monde, 1000 actions sont sanctifiées et honorées, sur lesquelles sa malédiction repose. Son regard s'arrête avec tristesse sur l'oisiveté nonchalante, comme sur le travail forcé, sur le luxe et la tyrannie, comme sur la détresse et l'indigence. Elle invite à la modération. Toutes ses relations sont vraies et tous ses actes paisibles. Quiconque a souffert comme moi a le droit d'être libre. Sperata m'appartient. La mort seule peut me la ravir. Comment je puis la conserver? Comment je pourrais être heureux? Voilà votre souci. Je cours auprès d'elle pour ne plus m'en séparer. » Il voulait prendre un bateau pour passer sur l'autre bord chez Sperata. Nous le retînmes et le suppliâmes de ne pas faire une démarche qui pouvait avoir les plus affreuses conséquences. Il devait réfléchir qu'il ne vivait pas dans le libre monde de ses pensées et de ses conceptions idéales, mais dans une société dont les lois et les rapports avaient acquis la force invincible d'une loi naturelle. Nous dûmes promettre au confesseur que nous ne perdrions pas notre frère de vue, et surtout que nous ne le laisserions pas sortir du château. Là-dessus, il s'en alla et promit de revenir dans quelques jours. Ce que nous avions prévu arriva. La raison avait fait la force de notre frère, mais son cœur était faible. Les premières impressions de la religion se ranimèrent et les plus horribles doutes s'emparèrent de lui. Il passa 2 jours et 2 nuits terribles. Le confesseur vint à son secours. Tout fut inutile. La raison libre et indépendante l'absolvait. Mais sa conscience, sa religion, ses idées accoutumées le déclaraient criminel. Un matin, nous trouvâmes sa chambre vide. Un billet, laissé sur une table, nous apprenait que, se voyant retenu par nous de force, il avait droit de ressaisir sa liberté. Il fuyait, il allait rejoindre Sperata. Il comptait s'échapper avec elle. Il était résolu à tout si l'on tentait de les séparer. Nous étions consternés. Mais le confesseur nous rassura. On avait observé de près notre pauvre frère. Les bateliers, au lieu de le passer sur l'autre bord, l'avaient ramené à son couvent. Épuisé par 24 heures de veille, il s'était endormi, aussitôt que la nacelle l'avait balancé au clair de lune, et ne s'était réveillé que dans les mains de ses frères spirituels. Il n'avait recouvré sa présence d'esprit que pour entendre la porte du couvent se fermer derrière lui. Douloureusement émus du sort de notre frère, nous fîmes aux confesseurs les plus vifs reproches. Mais cet homme vénérable sut bientôt nous persuader, avec les raisonnements du chirurgien, que notre pitié était mortelle pour le pauvre malade. Lui-même, il n'agissait pas de son chef, mais par l'ordre de l'évêque et du conseil supérieur. On avait voulu éviter tout scandale public et couvrir du voile secret de la discipline ecclésiastique cette triste aventure. Il fallait épargner Sperata. Il ne fallait pas qu'elle apprît que son amant était son frère. On l'avait recommandé à un ecclésiastique auquel elle avait déjà confié son état. On sut tenir sa grossesse et ses couches secrètes. Elle goûta parfaitement le bonheur de mère avec son petit enfant. Ainsi que la plupart de nos jeunes filles, elle ne savait ni écrire ni lire l'écriture. Elle chargeait donc le prêtre de répéter à son amant ce qu'elle voulait lui dire. Le prêtre se croyait obligé à cette fraude pieuse envers une mère qui allaitait son enfant. Il lui apportait des nouvelles de notre frère qu'il ne voyait jamais. Il lui recommandait en son nom le repos, la priait de prendre soin d'elle-même et de l'enfant et de se confier en Dieu pour l'avenir. Sperata était naturellement portée à la dévotion. Son état, sa solitude, augmentèrent ce penchant que le prêtre sut entretenir pour la préparer par degrés à une séparation éternelle. À peine l'enfant fut-il sevré, à peine la mère sembla-t-elle assez forte pour supporter les plus cruelles souffrances du cœur, que le prêtre commença à lui peindre sa faute sous d'affreuses couleurs, à lui faire envisager comme une sorte de crime contre nature, comme un inceste les relations qu'elle avait eues avec un homme d'église, car il avait le dessein bizarre de rendre son repentir égal à celui qu'elle aurait senti si elle avait connu les vraies circonstances de sa faute. Par là, il lui inspira tant de douleur et d'angoisse, il lui présenta une si haute idée de l'église et de son chef, il lui fit tellement envisager quelles conséquences terribles s'en suivraient pour le salut de toutes les âmes, si l'on voulait user d'indulgence pour des fautes pareilles, et même récompenser les coupables par un mariage légitime, il lui représenta si bien, comme il lui serait salutaire d'expier sa faute dès ce monde, et de gagner ainsi, quelques jours, la couronne de gloire, qu'enfin, comme une pauvre pécheresse, elle tendit volontairement le cou à la hache, et demanda instamment qu'on l'éloignât pour jamais de notre frère. Quand on eut obtenu d'elle ce sacrifice, on lui accorda cependant, mais sous une certaine surveillance, la permission d'habiter tour à tour, selon qu'il lui plairait, chez elle et au couvent. Son enfant grandissait et montra bientôt une nature étrange. Elle devint de très bonne heure agile à la course et d'une adresse remarquable dans ses mouvements. Bientôt elle chanta très agréablement et apprit, pour ainsi dire, d'elle-même à jouer de la guitare. Toutefois, elle parlait avec difficulté, et l'obstacle semblait résider dans l'esprit plus que dans les organes de la parole. Cependant, la pauvre mère éprouvait pour son enfant des sentiments douloureux. Les discours du prêtre avaient tellement troublé son esprit que, sans être aliénée, elle se trouvait dans la plus étrange situation. Sa faute lui semblait toujours plus affreuse et plus criminelle. L'idée d'inceste, si souvent mise en parallèle par le confesseur, avait fait sur Sperata une impression si profonde qu'elle n'eût pas éprouvé plus d'horreur si elle avait connu la vérité. Le confesseur se savait fort bon gré de l'artifice par lequel il déchirait le cœur d'une malheureuse créature. C'était lamentable de voir comme l'amour maternel, qui inclinait à mettre sa joie dans l'existence de l'enfant, luttait avec l'affreuse pensée que cet enfant n'aurait pas dû naître. Tantôt ces deux sentiments se combattaient, tantôt l'horreur l'emportait sur l'amour. Depuis longtemps, on avait éloigné l'enfant de sa mère, et on l'avait confié à de bonnes gens qui demeuraient au bord du lac. Là, dans une plus grande liberté, se développa bientôt chez elle un singulier goût pour grimper, escalader les plus hautes cimes de rochers, courir sur le bord des bateaux, imiter les plus merveilleux tours d'adresse des sauteurs de cordes qui se montraient quelquefois dans la contrée, était chez elle un instinct naturel. Pour se livrer plus aisément à tous ces exercices, elle aimait à changer d'habit avec les petits garçons, et bien que cela parût indécent et impardonnable à ses gardiens, nous lui passions tout ce qu'il était possible. Ses promenades singulières et aventureuses la menaient loin quelquefois. Elle s'égarait, elle se faisait attendre, et revenait toujours. Le plus souvent, à son retour, elle s'asseyait entre les colonnes du portail qui décorait une maison de campagne du voisinage. On ne la cherchait plus, on l'attendait. Là, elle semblait sommeiller sur les degrés, puis elle courait dans la grande salle, elle considérait les statues, et quand on ne la retenait pas d'une façon particulière, elle revenait bien vite à la maison. Mais enfin, notre attente fut trompée et notre indulgence punie. L'enfant ne revint pas. On trouva son chapeau flottant sur l'eau, non loin du lieu où un torrent se précipite dans le lac. On supposa qu'en grimpant parmi les rochers, elle avait fait une chute funeste. On fit de vaines recherches pour retrouver son corps. Le babil imprudent des compagnes de Sperata lui apprit bientôt la mort de son enfant. Elle parut tranquille et sereine, et fit assez clairement paraître sa joie que Dieu eût rappelé à lui la pauvre créature et l'eût ainsi préservée de souffrir ou de causer un plus grand malheur. À cette occasion, l'on produisit toutes les fables que l'on compte sur notre lac. On disait qu'il devait engloutir chaque année un enfant innocent, mais qu'il ne gardait aucun cadavre, et qu'il les rejetait tôt ou tard sur le rivage. Tout, jusqu'au dernier petit ossement, descendu au fond de ses eaux, devait reparaître. On racontait l'histoire d'une mère inconsolable dont l'enfant s'était noyé dans le lac et qui avait supplié Dieu et les saints de lui rendre au moins les ossements pour les ensevelir. La première tempête avait rejeté le crâne sur le bord, la deuxième le tronc, et quand tous les ossements furent recueillis, la mère les avait portés à l'église, enveloppés dans un linceul. Mais, ô miracle! Comme elle entrait dans le temple, le fardeau était devenu toujours plus pesant. Et enfin, lorsqu'elle l'eut déposé sur les marches de l'autel, l'enfant s'était mis à crier, et au grand étonnement de l'assistance, s'était débarrassé du linceul. Un os du petit doigt manquait seul à la main droite. Et la mère l'ayant ensuite soigneusement cherché et retrouvé, il fut conservé, en mémoire du miracle, parmi les reliques de l'église. Ces histoires firent une grande impression sur la pauvre mère. Son imagination prit un nouvel essor et flatta les mouvements de son cœur. Elle se persuada que l'enfant avait expié sa naissance et la faute de ses parents, que la malédiction et la peine qui avaient pesé sur eux jusqu'alors étaient complètement abolies, qu'il ne fallait plus que retrouver les ossements de l'enfant pour les porter à Rome et qu'il ressusciterait dans toute sa fraîcheur et toute sa beauté en présence du peuple sur les marches du grand autel de Saint-Pierre, qu'il reverrait de ses yeux son père et sa mère et que le pape, convaincu du consentement de Dieu et de ses saints, pardonnerait aux parents leurs péchés au milieu des acclamations du peuple, leur donnerait l'absolution et la bénédiction nuptiale. Dès lors, ses regards et son attention furent constamment dirigés vers le rivage. La nuit, quand les flots se brisaient au clair de lune, elle croyait voir chaque vague brillante lui apporter sa fille. Il fallait qu'une personne courût au rivage et feignît de la recevoir. Le jour, elle parcourait incessamment la grève. Elle recueillait dans un panier tous les os qu'elle trouvait. Nul n'osait lui dire que c'était des os d'animaux. Elle enterrait les grands, elle emportait les petits. C'était son occupation continuelle. Le prêtre, qui par son zèle obstiné l'avait mise en cet état, s'intéressa désormais de tout son pouvoir à l'infortunée. Par son influence, elle fut considérée dans le pays comme une inspirée et non comme une folle. On s'arrêtait dévotement à son passage et les enfants lui baisaient la main. La vieille surveillante, qui avait favorisé la malheureuse union des deux amants, n'obtint du confesseur l'absolution de sa faute qu'à condition qu'elle veillerait tout le reste de sa vie sur l'infortunée. Elle a rempli jusqu'au bout ses devoirs, avec une patience et une fidélité admirables. Cependant, nous n'avions pas perdu de vue notre frère. Ni les médecins, ni les religieux du couvent ne voulaient nous permettre de paraître devant lui. Mais, pour nous convaincre qu'il allait bien, selon son état, on nous autorisait à l'observer, aussi souvent que cela nous plaisait, dans le jardin, dans les corridors, et même par une ouverture pratiquée dans le plafond de sa cellule. Après beaucoup de crises affreuses et singulières que je passerai sous silence, il était tombé dans un calme d'esprit et une agitation corporelle extraordinaire. Il n'était presque jamais assis, si ce n'est lorsqu'il prenait sa harpe, et jouait le plus souvent pour accompagner son chant. Du reste, il était sans cesse en mouvement, et en toute chose extrêmement souple et docile, car toutes ses passions semblaient être réduites à la seule crainte de la mort. On pouvait le déterminer à tout au monde en le menaçant de la mort ou d'une grave maladie. Outre sa manie d'aller et venir sans cesse dans l'intérieur du cloître et de faire entendre assez clairement qu'il aimerait mieux encore courir de la sorte par monts et par vaux, Il parlait aussi d'une vision qui le tourmentait souvent. Il assurait qu'à toute heure de la nuit, lorsqu'il venait à s'éveiller, un beau petit garçon paraissait au pied de son lit et le menaçait d'un poignard étincelant. On le transporta dans une autre cellule, mais il affirma que là encore, et même enfin dans d'autres places du couvent, l'enfant se tenait aux aguets. Ses courses devinrent toujours plus inquiètes. On se rappela même dans la suite qu'en ce temps-là, il s'était tenu aux fenêtres plus souvent que de coutume et avait promené ses regards sur le lac. Sur ces entrefaites, notre pauvre sœur semblait peu à peu consumée par sa pensée unique et son occupation exclusive, et notre docteur proposa de mêler peu à peu, parmi les autres ossements, ceux d'un squelette d'enfant, pour augmenter par là son espérance. La tentative était hasardeuse. Cependant, il semblait qu'on y gagnerait, du moins, qu'une fois qu'elle aurait rassemblé toutes les parties, on pourrait la détourner de sa recherche continuelle et lui faire espérer un voyage à Rome. Ce projet s'exécuta, et sa gardienne substitua peu à peu aux ossements trouvés ceux qu'on lui avait remis. Et la pauvre malade éprouva une joie incroyable lorsqu'elle vit successivement les parties se rejoindre et que l'on put désigner celles qui manquaient encore. Elle avait fixé, avec un grand soin, chaque ossement à sa place, au moyen de fils et de rubans. Et comme on le fait en l'honneur des saintes reliques, elle avait rempli les intervalles avec de la soie et des broderies. On avait ainsi recomposé le squelette. Il ne manquait plus que quelques extrémités. Un matin, que Sperata dormait encore, le médecin étant venu demander de ses nouvelles, la vieille tira ses précieux ossements de la cassette qui se trouvait dans la chambre à coucher, pour montrer au docteur le travail de la pauvre malade. Bientôt après, on l'entendit sauter à bas du lit. Elle leva le voile et trouva la cassette vide. Elle tombe à genoux, on vient et l'on entend sa joyeuse et fervente prière. « Oui, c'est véritable !» s'écria-t-elle. « Ce n'est point un songe, c'est une réalité. Réjouissez-vous avec moi, mes amis. J'ai revu, pleine de vie, la bonne et belle créature. Elle s'est levée, elle a rejeté le voile qui la couvrait, son éclat illuminait la chambre, sa beauté était glorifiée. Elle voulait et ne pouvait poser les pieds sur le plancher. Elle s'est élevée d'un vol léger, sans pouvoir seulement me toucher la main. Alors, elle m'a appelée à sa suite et m'a montré le chemin que je dois prendre. Je la suivrai bientôt. Je le sens et mon cœur est soulagé. Ma peine s'est évanouie et la vue de mon enfant ressuscité m'a donné un avant-goût des joies célestes. » Depuis ce moment, elle fut tout occupée des plus riantes espérances. Aucun objet terrestre ne fixait plus son attention. Elle prenait fort peu de nourriture, et son esprit se dégageait insensiblement des liens du corps. Un jour, à l'improviste, on la trouva pâle et privée de sentiments. Ses yeux ne s'ouvrirent plus, elle était ce que nous appelons morte. Le bruit de sa vision n'avait pas tardé à se répandre parmi le peuple, et le respect qu'elle avait inspiré pendant sa vie conduisit, bientôt après sa mort, à l'idée qu'on devait la tenir pour bienheureuse et sainte. Lorsqu'on voulut l'ensevelir, une foule de gens accoururent avec une incroyable ardeur. On voulait toucher ses mains ou du moins son vêtement. Dans cette vive exaltation, quelques malades cessèrent de sentir les maux dont ils étaient habituellement affligés. Ils se crurent guéris, ils le proclamèrent, ils bénissaient Dieu et la nouvelle sainte. Le clergé fut obligé d'exposer le corps dans une chapelle. Le peuple demanda de pouvoir y faire ses dévotions. L'affluence fut incroyable. Les habitants de la montagne, qui sont d'ailleurs disposés à l'exaltation religieuse, accoururent de leur vallée. La ferveur, les miracles, l'adoration allèrent croissant de jour en jour. Les ordonnances des évêques, qui devaient borner et peu à peu faire tomber en oubli ce nouveau culte, ne purent être mises à exécution. À chaque résistance, le peuple s'enflammait, prêt à maltraiter les incrédules. On s'écriait « Saint Borromée n'a-t-il pas aussi vécu parmi nos ancêtres ? Sa mère n'a-t-elle pas eu la joie d'assister à sa béatification ? N'a-t-on pas voulu, par cette statue colossale élevée sur le rocher d'Arona, nous rendre sensibles l'idée de sa grandeur spirituelle ? Sa famille ne vit-elle pas au milieu de nous ? Et Dieu n'a-t-il pas promis de renouveler constamment ses miracles chez un peuple fidèle ?» Le corps ne donnant au bout de quelques jours aucun signe de corruption, et devenant au contraire d'une blancheur plus grande et comme transparent, la confiance du peuple s'accrut toujours davantage, et l'on signala parmi la foule diverses guérisons que l'observateur attentif ne pouvait lui-même expliquer, et qu'on ne pouvait non plus traiter simplement d'imposture. Tout le pays était en mouvement, et ceux qui ne venaient pas eux-mêmes n'entendirent du moins pendant quelque temps parler d'aucune autre chose. Le couvent où mon frère se trouvait retentit, comme tout le pays, du bruit de ses miracles, et l'on se garda d'autant moins d'en parler en présence d'Augustin que d'ordinaire il ne faisait attention à rien, et que sa liaison avec Sperata n'était connue de personne dans la communauté. Mais cette fois, il parut avoir écouté fort attentivement. Il ménagea sa fuite avec une telle adresse que personne n'a jamais pu comprendre comment il s'échappa du couvent. On apprit plus tard qu'il s'était fait transporter sur l'autre bord avec une troupe de pèlerins et qu'il avait seulement prié avec instance les bateliers, qui ne remarquèrent chez lui aucune autre singularité, de manœuvrer avec le plus grand soin et de ne pas laisser chavirer la barque. Bien avant la nuit, il visita la chapelle où sa malheureuse amante se reposait de ses maux. Un petit nombre de pèlerins étaient agenouillés à l'écart. La vieille amie de Sperata était assise à son chevet. Il approcha, la salua et lui demanda des nouvelles de son amante. « Vous la voyez ? » répondit-elle avec embarras. Il regarda le corps à la dérobée, fut saisi d'un frémissement, prit la main de la morte. Mais, effrayé de la trouver froide, il la laissa retomber aussitôt. Il jeta autour de lui des regards inquiets et dit à la vieille « Je ne puis rester maintenant près d'elle. J'ai encore à faire un grand voyage, mais je reviendrai à temps. Dis-le-lui quand elle se réveillera. » Il partit. Nous ne fûmes informés que bien tard de l'événement. On fit des recherches, elles demeurèrent inutiles. Comment parvint-il à franchir les montagnes et les vallées, c'est ce qu'on ne peut comprendre. Longtemps après, nous découvrîmes enfin quelques traces de lui dans les grisons. Malheureusement, c'était trop tard, et nous les perdîmes bientôt. Nous soupçonnâmes qu'il était en Allemagne, mais la guerre avait effacé complètement les faibles vestiges de son passage. Chapitre 10. L'abbé cessa de lire. Personne ne l'avait écouté sans verser des larmes. La comtesse avait tenu constamment son mouchoir sur ses yeux. Enfin, elle se leva et sortit avec Nathalie. Le reste de la compagnie gardait le silence. L'abbé reprit la parole et dit « Il s'agit de savoir maintenant si nous devons laisser partir le marquis sans lui découvrir notre secret. Car on ne peut douter un moment qu'Augustin et notre joueur de harpe ne soient la même personne. Voyons ce que nous devons faire, aussi bien pour cet homme infortuné que pour sa famille. Mon avis serait de ne rien précipiter, d'attendre les nouvelles que va nous apporter le docteur. » Tout le monde trouva que c'était le parti le plus sage, et l'abbé continua. Une autre question, qui exige peut-être une solution plus prompte, se présente en même temps. Le marquis est infiniment touché de l'accueil que sa pauvre nièce a trouvé parmi nous, surtout auprès de notre jeune ami. Je lui ai raconté en détail toute l'histoire. J'ai dû même la lui répéter, et il témoignait la plus vive reconnaissance. « Ce jeune homme, disait-il, a refusé de voyager avec moi avant de savoir le lien qui nous unit. désormais, je ne suis plus pour lui un étranger, dont il ne pouvait connaître l'humeur et les habitudes. Je suis son allié, ou, si vous le voulez, son parent. Et son fils, qu'il ne voulait pas quitter, qui auparavant aurait pu l'empêcher de se joindre à moi, doit devenir maintenant le doux lien qui nous unira plus étroitement l'un à l'autre. Après tout ce qu'il a fait pour moi, qu'il veuille encore m'être utile dans ce voyage, qu'il m'accompagne ensuite en Italie. Mon frère aîné le recevra avec joie. Que votre ami ne dédaigne pas l'héritage de son enfant adoptif. D'après une convention secrète entre notre père et son ami, la part qu'il avait assignée à sa fille nous est dévolue, et certainement nous ne priverons pas le bienfaiteur de notre nièce de ce qu'il a mérité. Thérèse prit Wilhelm par la main et lui dit « Nous voyons de nouveau, par un bel exemple, qu'un bienfait désintéressé est payé avec usure. Suivez ce mystérieux appel, et en doublant les obligations que le marquis vous aura, tournez vos pas vers un beau pays qui plus d'une fois séduisit votre imagination et votre cœur. Je m'abandonne entièrement à mes amis et à leur direction, dit Wilhelm. C'est vainement qu'on voudrait suivre dans ce monde sa propre volonté. Ce que je désirais posséder, il faut que je l'abandonne, et un bienfait immérité s'impose à moi. » Wilhelm serra la main de Thérèse et dégagea la sienne, puis il dit à l'abbé « Je vous laisse disposer absolument de moi. Si l'on ne m'oblige pas à me séparer de Félix, je consens d'aller où l'on voudra et d'entreprendre tout ce qu'on jugera convenable. » Après cette déclaration, l'abbé proposa sur-le-champ de laisser partir le marquis. Wilhelm attendrait le rapport du médecin, et aussitôt qu'on aurait décidé ce qu'il y avait à faire, il partirait avec Félix. L'abbé, alléguant au marquis qu'il n'était pas obligé d'attendre que son jeune compagnon eût achevé ses préparatifs de voyage, lui conseilla de visiter dans l'intervalle les curiosités de la ville. Le marquis partit, non sans avoir encore exprimé vivement sa reconnaissance, dont il donna des marques en laissant des présents magnifiques en joyaux, en pierres taillées et en étoffes brodées. Wilhelm était lui-même prêt à se mettre en voyage, et l'on se sentait d'autant plus impatient de n'avoir aucune nouvelle du docteur. On craignait qu'il ne fût arrivé malheur au pauvre joueur de harpe, dans le temps même où l'on pouvait espérer de rendre sa situation infiniment meilleure. On dépêcha le courrier, et à peine fut-il parti que le médecin arriva, le soir, avec un étranger, d'une figure et d'un maintien sérieux, grave, imposant, et que nul ne connaissait. Les deux arrivants gardèrent quelques moments le silence. Enfin, l'étranger s'approcha de Wilhelm, lui tendit la main et lui dit « Ne reconnaissez-vous plus votre ancien ami ?» C'était la voix du joueur de harpe, mais tout son extérieur était changé. Il portait le costume ordinaire d'un voyageur, il était proprement et décemment vêtu. Sa barbe avait disparu, ses cheveux étaient bouclés avec quelque soin. Et ce qui le rendait tout à fait méconnaissable, c'est que sa figure expressive ne portait plus les marques de la vieillesse. Wilhelm l'embrassa avec la joie la plus vive. On le présenta aux autres personnes, il se comporta d'une manière fort convenable, et ne se doutait pas que depuis peu, tout ce monde le connût si bien. « Vous aurez, dit-il avec un grand calme, de la patience pour un homme qui, si avancé dans la vie qu'il vous paraisse, entre dans le monde comme un enfant sans expérience, après de longues douleurs. C'est à cet homme distingué que je dois de pouvoir reparaître dans la société. » On lui souhaita la bienvenue, et le docteur proposa sur-le-champ une promenade, afin de couper court à la conversation et de l'amener sur des sujets indifférents. Dès qu'il se trouva seul avec ses amis, il leur donna des éclaircissements. « C'est au plus singulier hasard, leur dit-il, que nous avons dû la guérison de cet homme. Nous l'avions longtemps soumis, selon nos idées, à un traitement physique et moral. Son état était sensiblement meilleur, mais sa frayeur de la mort était toujours extrême, et il ne voulait pas nous faire le sacrifice de sa barbe et de sa longue robe. Du reste, il prenait plus d'intérêt aux choses du monde, et ses chants, comme ses idées, semblaient se rapprocher de la vie. Vous savez par quelle singulière lettre le pasteur me rappela d'ici. À mon arrivée, je trouvai notre homme tout changé. Il avait renoncé de lui-même à sa longue barbe et s'était laissé coiffer comme tout le monde. Il avait demandé des habits ordinaires et il semblait tout à coup devenu un autre homme. Nous étions impatients d'approfondir la cause de ce changement et nous n'osions pas nous en expliquer avec lui. Enfin, le hasard nous éclaircit ce singulier événement. Un flacon d'opium manquait dans la pharmacie du pasteur. On jugea nécessaire de faire les plus exactes recherches. Chacun s'efforçait de repousser les soupçons loin de soi. Il y eut parmi les gens de la maison des scènes violentes. Enfin, notre homme vint nous avouer que c'était lui qui l'avait en sa possession. On lui demanda s'il en avait pris, il dit que non, et il ajouta « Je dois à la possession de cet objet le retour de ma raison. Il dépend de vous de me reprendre ce flacon, mais vous me verrez retomber sans espoir dans mon premier état. Le sentiment qu'il serait désirable pour moi de voir mes souffrances terrestres terminées par la mort fut mon premier pas dans la voie de la guérison. Bientôt, l'idée me vint de les faire cesser par une mort volontaire, et c'est dans ce dessein que j'enlevai le flacon. Le pouvoir de mettre fin, en un instant et pour jamais, à mes grandes douleurs, m'a donné la force de les supporter. Et depuis que je possède ce talisman, le voisinage de la mort m'a ramené vers la vie. Ne craignez pas que j'en fasse usage, mais décidez-vous, en homme qui connaissait le cœur humain, à me faire aimer la vie en me laissant maître de la quitter. » Après de mûres réflexions, nous n'insistâmes pas davantage. Et il porte maintenant sur lui, dans un solide petit flacon de cristal, ce poison comme le plus singulier antidote. On introduisit le médecin de tout ce qu'on avait découvert, et l'on résolut de garder avec Augustin le plus profond silence. L'abbé se proposa de lui tenir fidèle compagnie et de le faire avancer dans la bonne route où il venait d'entrer. Pendant ce temps, Wilhelm ferait avec le marquis le voyage d'Allemagne. Si l'on pouvait réveiller chez Augustin le désir de revoir sa patrie, on découvrirait à ses parents sa situation, et Wilhelm le ramènerait dans sa famille. Ses préparatifs de voyage étaient achevés, et s'il parut d'abord étrange qu'Augustin témoignât de la joie en apprenant que son ancien ami, son bienfaiteur, allait sitôt s'éloigner, l'abbé ne tarda pas à découvrir la cause de ce singulier sentiment. Augustin ne pouvait surmonter l'ancienne peur qu'il avait de Félix, et il souhaitait de voir l'enfant s'éloigner le plus tôt possible. Tant de personnes étaient arrivées les unes après les autres qu'on pouvait à peine les loger dans le château et les ailes, d'autant qu'on n'avait pas compté d'abord sur de si nombreuses visites. On déjeunait, on dînait ensemble, et l'on se serait persuadé volontiers qu'on vivait dans une agréable harmonie, tandis que les cœurs aspiraient en secret à se séparer. Thérèse avait fait des promenades à cheval, seule le plus souvent, et quelquefois avec Lothaire. Elle avait fait la connaissance de tous les agriculteurs du voisinage, ainsi que de leurs femmes. C'était chez elle une maxime de vie domestique, et elle pouvait bien n'avoir pas tort, qu'il faut être, avec voisins et voisines, dans les meilleurs rapports et dans un échange perpétuel de bons offices. Il ne semblait pas qu'il fût question de mariage entre elle et Lothaire. Les deux sœurs avaient beaucoup de choses à se dire. L'abbé paraissait chercher la société d'Augustin. Jarnot avait de fréquentes conférences avec le docteur. Frédéric s'attachait à Wilhelm, et Félix était partout où il se trouvait à son gré. C'est de la sorte qu'on se réunissait le plus souvent, par couple, à la promenade, quand la société se séparait. Lorsqu'elle était rassemblée, on se hâtait de recourir à la musique, afin de réunir tout le monde en rendant chacun à lui-même. Le comte vint à l'improviste accroître la société. Il venait chercher la comtesse et, à ce qu'il paraît, prendre un congé solennel de tous ses parents. Jarno courut le recevoir à sa voiture et, le nouveau venu lui ayant demandé quelle société il trouverait, il lui répondit dans un accès d'humeur bouffonne qui le prenait toujours dès qu'il voyait le comte. « Vous trouverez réunie toute la noblesse du monde, marquis, marquésis, lords et barons. Il ne nous manque plus qu'un comte. » Ils montèrent ensemble l'escalier, et Wilhelm fut la première personne qu'ils rencontrèrent dans le vestibule. « Milord, lui dit en français le comte, après l'avoir considéré un moment, « je ne m'attendais pas au plaisir de renouveler ici connaissance avec vous. Ou je me trompe fort, ou je vous ai vu à la suite du prince dans mon château. J'eus le bonheur de faire alors ma cour à votre excellence, répondit Wilhelm. Seulement vous me faites trop d'honneur en me prenant pour un Anglais de la première noblesse. Je suis allemand et... Un excellent jeune homme, dit Jarno en l'interrompant. Le comte regarda Wilhelm en souriant et allait répliquer, quand le reste de la société s'avança et lui fit le plus aimable accueil. On s'excusa de ne pouvoir lui offrir sur le champ un appartement convenable, et l'on promit d'y pourvoir incessamment. « Hé hé !» répondit-il en souriant. « Je vois bien qu'on a laissé au hasard le soin de distribuer les logements. Avec de l'ordre et de la prévoyance, que de choses ne peut-on faire ? À présent, je vous en prie, ne déplacez pas pour moi une pantoufle. Autrement, je le vois bien, cela causera un grand désordre. Chacun sera mal logé, et je ne veux pas que personne le soit une heure à cause de moi. Vous avez vu de vos yeux, poursuivit-il, vous, Jarno, et vous aussi, Meister, combien de monde je suis logé commodément dans mon château. Qu'on me donne la liste des hôtes et des domestiques. Qu'on me fasse voir comment chacun est installé maintenant, je ferai un plan de dislocation, tel qu'avec fort peu de peine, chacun trouvera un logement spacieux et qu'il restera de la place pour les autres qui pourront encore nous arriver. » Jarno se fit aussitôt l'aide-major du comte, lui procura tous les renseignements nécessaires et se divertit beaucoup, à sa manière, en donnant quelquefois au vieux seigneur de fausses directions. La distribution était achevée. Le comte fit inscrire en sa présence les noms sur toutes les portes, et l'on dut reconnaître qu'avec peu de changements et d'embarras, le but se trouvait atteint parfaitement. Jarno avait d'ailleurs tout dirigé, de sorte que les personnes qui se trouvaient alors bien ensemble eussent le même logement. Quand tous ces arrangements furent terminés, le comte dit à Jarno « Aidez-moi à me rappeler ce jeune homme que vous nommez Meister et qui se dit allemand. » Jarno garda le silence, car il savait bien que le comte était de ces gens qui ne font des questions que pour instruire les autres. Le comte poursuivit en effet, sans attendre la réponse. « Vous me l'avez présenté à cette époque et recommandé vivement au nom du prince. Sa mère était peut-être allemande, mais je réponds que son père est anglais. » Et homme de qualité. Qui pourrait dire tout le sang anglais qui depuis 30 ans circule dans les veines allemandes? Je ne veux pas insister davantage. Vous avez toujours de ces secrets de famille, mais ce n'est pas à moi qu'on en fait à croire là-dessus. » Puis le comte rapporta encore maintes choses que Wilhelm avait dû faire dans son château, et Jarno continua de garder le silence, quoique le vieux seigneur confondit plus d'une fois notre ami avec un jeune Anglais de la suite du prince. Le bonhomme avait eu autrefois une excellente mémoire, et il triomphait encore de pouvoir se rappeler les moindres événements de sa jeunesse. Mais il donnait, avec la même assurance, comme des choses vraies, des combinaisons et des fables bizarres que son imagination lui avait présentées, à mesure que sa mémoire s'affaiblissait davantage. Du reste, il était devenu fort doux et fort obligeant, et sa présence eut une influence très heureuse sur la société. Il demandait que l'on fît ensemble quelques bonnes lectures, Il indiquait parfois de petits jeux qu'il dirigeait avec grand soin s'il n'y prenait point de part. Et comme on admirait ses manières affables, il répondait que c'était le devoir de toute personne qui se retirait du monde pour les grandes affaires de se prêter d'autant plus aux choses indifférentes. Au milieu de ces amusements, notre ami avait plus d'un moment d'inquiétude et de chagrin. Le léger Frédéric saisissait maintes occasions de faire allusion au penchant de Wilhelm pour Nathalie. Qu'est-ce qui pouvait lui en suggérer l'idée? Qui l'autorisait à tenir ce langage? Et la société ne devait-elle pas croire que, ces deux jeunes hommes étant beaucoup ensemble, Wilhelm avait fait à Frédéric cette imprudente et malheureuse confidence? Un jour, ce badinage les avait égayés plus que de coutume, quand Augustin, ouvrant tout à coup la porte avec fracas, se précipite dans la salle en faisant des gestes forcenés. Il avait le visage pâle, l'œil hagard, il voulait parler et la voix lui manquait. La société fut saisie d'effroi. Lothaire et Jarnot, qui craignaient un nouvel accès de démence, se jettent sur lui et le tiennent fortement. Alors, balbutiant d'abord d'une voix étouffée, puis violente et furieuse, il s'écrie « Laissez-moi ! Courez, sauvez l'enfant ! Félix est empoisonné !» On le lâcha et tout le monde, saisi d'horreur, courut sur ses pas en appelant le docteur. Augustin se dirigea vers la chambre de l'abbé où l'on trouva l'enfant qui parut effrayé et embarrassé lorsqu'on lui cria de loin « Qu'as-tu fait ?»« Cher papa, répondit Félix, je n'ai pas bu à la bouteille, j'ai bu au verre, j'avais soif. » Augustin, les mains jointes, s'écria « Il est perdu !» Puis il se fit jour à travers les assistants et s'enfuit. On trouva sur la table un verre de lait d'amande et à côté une carafe plus qu'à moitié vide. Le docteur arriva, on le mit au fait et il reconnut avec effroi sur la table le flacon d'opium. Il était vide. Il demanda du vinaigre et mit en usage toutes les ressources de son art. Nathalie fit transporter l'enfant dans une autre chambre. Elle lui prodiguait ses soins. L'abbé avait couru à la recherche d'Augustin pour lui arracher quelques éclaircissements. Le malheureux père l'avait déjà cherché inutilement, et à son retour, il trouva tous les visages inquiets et troublés. Le docteur avait examiné le lait d'amande qui était dans le verre et avait reconnu qu'il contenait une très forte dose d'opium. L'enfant était couché sur un lit de repos et paraissait fort malade. Il priait son père qu'on ne lui fît plus avaler rien, qu'on voulût bien ne plus le tourmenter. Lothaire avait envoyé ses gens de tous côtés. Il était parti lui-même à cheval pour découvrir la trace d'Augustin. Nathalie était assise auprès de Félix. Il se réfugia sur ses genoux, la suppliant de le protéger, la priant de lui donner un morceau de sucre. Le vinaigre était trop mauvais. Le docteur le permit, disant qu'il fallait laisser un peu de repos à l'enfant, qu'il était dans la plus affreuse agitation. On avait fait ce que la prudence conseillait. Il ferait tout ce qui était possible. Le comte survint, quelque peu mécontent à ce qu'il semblait. Il avait l'air grave et même solennel. Il imposa les mains à l'enfant, leva les yeux au ciel et resta quelques moments dans cette attitude. Wilhelm, inconsolable, s'était jeté sur un siège. Il se leva brusquement, porta sur Nathalie un regard plein de désespoir et sortit. Bientôt après, le comte se retira. « Je ne puis concevoir, dit le médecin au bout de quelque temps, qu'il ne se manifeste pas chez l'enfant le moindre symptôme d'un état dangereux. D'une seule gorgée, il doit avoir pris une énorme dose d'opium, et je ne trouve dans l'état de son pouls rien que je ne puisse attribuer à mes remèdes et à la frayeur que nous lui avons causée. » Bientôt après, Jarnot apporta la nouvelle qu'on avait trouvé dans les combles Augustin baigné dans son sang. Un rasoir était auprès de lui. Il s'était coupé la gorge. Le docteur y courut et rencontra dans l'escalier les domestiques qui apportaient le blessé. Il fut couché sur un lit et la blessure soigneusement examinée. L'incision avait atteint la trachée artère. Une forte hémorragie avait amené un évanouissement. Mais on remarquait bientôt qu'il y avait encore de la vie, encore de l'espérance. Le docteur plaça le corps dans l'attitude convenable, rapprocha les parties séparées et banda la plaie. Tout le monde passa la nuit dans l'angoisse et l'insomnie. L'enfant ne voulait pas quitter Nathalie. Wilhelm était assis devant elle sur un tabouret. Les pieds de Félix reposaient sur ses genoux, la tête et la poitrine sur ceux de Nathalie. Ils se partagèrent de la sorte ce fardeau chéri et ses soins douloureux, et restèrent jusqu'au jour dans cette posture incommode. Nathalie avait donné sa main à Wilhelm. Il ne disait pas un mot, regardait l'enfant et se regardait l'un l'autre. Lothair et Jarno étaient assis à l'autre bout de la chambre, engagés dans une conversation importante que nous rapporterions volontiers à nos lecteurs si nous étions moins pressés par les événements. L'enfant dormit doucement, s'éveilla de bon matin, tout joyeux, sauta par terre et demanda une tartine de beurre. Dès qu'Augustin se fut un peu remis, on tâcha d'obtenir de lui quelques éclaircissements. On apprit, non sans peine, et par degrés seulement, qu'à la suite de la malheureuse dislocation du comte, étant logé dans la même chambre que l'abbé, il avait trouvé le manuscrit et lu son histoire, qu'elle lui avait causé une horreur sans égale et qu'il s'était jugé indigne de vivre plus longtemps. Aussitôt, selon sa pensée habituelle, il avait eu recours à l'opium, l'avait versé dans un verre de lait d'amande, mais, saisi d'effroi en le portant à ses lèvres, il avait posé le verre sur la table pour courir au jardin et contempler encore une fois la nature. À son retour, il avait trouvé l'enfant occupé à remplir de nouveau le verre où il avait bu. On conjurait le malheureux de se calmer. Il pressait la main de Wilhelm avec des mouvements convulsifs. « Ah ! Disait-il, pourquoi ne t'ai-je pas quitté depuis longtemps ? Je savais bien que je tuerais l'enfant et que l'enfant me tuerait. » « Il est vivant !» répondit Wilhelm. Le docteur, qui avait écouté attentivement, demanda à Augustin si tout le lait d'amande était empoisonné. « Non, répondit-il, mais seulement celui qui était dans le verre. » « Ainsi, dit le docteur, par le hasard le plus heureux, l'enfant a bu à la bouteille. Un bon génie a dirigé sa main et l'a détourné de choisir la mort qui s'offrait à lui toute prête. « Non, non !» s'écria Wilhelm avec désespoir. « Cette déclaration est foudroyante. Félix a dit expressément qu'il avait bu au verre et non à la bouteille. Sa santé n'est qu'une apparence. Il va mourir dans nos mains. » En disant ces mots, il courut à son fils. Le docteur le suivit et dit à l'enfant, en lui faisant des caresses, « N'est-il pas vrai, Félix, que tu as bu à la bouteille et non au verre ?» L'enfant se mit à pleurer. Le docteur rapporta secrètement à Nathalie ce qui s'était passé. Elle fit à son tour d'inutiles efforts pour savoir de Félix la vérité. Il pleurait toujours plus fort et finit par s'endormir. Wilhelm veilla près de lui. La nuit se passa tranquillement. Le lendemain, on trouva Augustin mort dans son lit. Il avait trompé la vigilance de ses gardiens en feignant de dormir, avait arraché sans bruit l'appareil de sa blessure et avait perdu tout son sang. Nathalie mena l'enfant promener. Il était joyeux comme en ses plus heureux moments. « Tu es bonne, lui dit-il, tu ne veux pas me gronder ni me battre. Je te dirai la vérité. J'ai bu à la bouteille. Maman Aurélie me donnait sur les doigts quand je prenais la carafe. « Papa me regardait d'un air fâché. J'ai cru qu'il voulait me battre. » Nathalie vole au château. Elle rencontre Wilhelm encore plein d'angoisse. « Heureux père !» lui dit-elle en mettant Félix dans ses bras. « Ton fils t'est rendu. Il a bu à la bouteille. Sa mauvaise habitude l'a sauvé. » On rapporta cet heureux événement au comte, qui prêta l'oreille en montrant cette confiance souriante, tranquille, modeste, avec laquelle on daigne souffrir l'erreur des bonnes gens. Jarno, qui observait tout, ne pouvait cette fois s'expliquer un si haut degré de satisfaction personnelle. Mais il découvrit enfin, avec force détour, que le comte était convaincu que l'enfant avait pris réellement le poison, mais qu'il lui avait miraculeusement sauvé la vie par sa prière et par l'imposition des mains. Aussitôt, le comte résolut de partir. Suivant son habitude, il eut bientôt plié bagage. Au moment du départ, la belle comtesse prit la main de Wilhelm avant d'avoir quitté celle de Nathalie, les pressa l'une et l'autre dans les siennes, détourna vivement la tête et monta en voiture. Tant d'événements affreux et extraordinaires qui s'étaient succédés rapidement, qui avaient arraché la société à ses habitudes et mis tout en désordre et en confusion, avaient répandu dans le château comme une agitation fiévreuse. Les heures de la veille et du sommeil, des repas et des conversations, étaient bouleversées. Hors Thérèse, personne n'était resté dans son ornière. Les hommes cherchèrent à réveiller leur bonne humeur par des boissons spiritueuses, et, en se procurant une gaieté factice, ils éloignaient la gaieté naturelle, la seule qui nous donne une sérénité et une activité véritable. Wilhelm était agité et troublé par les plus violentes passions. Ses secousses affreuses, inattendues, l'avaient mis hors d'état de résister à l'amour qui s'était emparé de son cœur. Félix lui était rendu, et cependant tout semblait lui manquer. Werner lui avait envoyé les lettres de change. Il ne lui fallait plus, pour se mettre en voyage, que le courage de s'éloigner. Tout le pressait de partir. Il pouvait deviner que Lothaire et Thérèse n'attendaient que son éloignement pour célébrer leur mariage. Contre son habitude, Jarno était silencieux et semblait même avoir perdu quelque chose de sa sérénité accoutumée. Heureusement, le docteur vint au secours de notre ami en le déclarant malade et le soumettant à ses ordonnances. La société se rassemblait tous les soirs et le pétulant Frédéric, qui d'ordinaire avait bu plus que de raison, s'emparait de la conversation et, à sa manière, par mille citations et mille allusions facétieuses, provoquait le rire dans toute la société et la mettait assez souvent dans l'embarras en se permettant de penser tout haut. Il semblait ne pas croire du tout à la maladie de son ami. Un soir, que la compagnie était rassemblée, « Docteur, s'écria-t-il, comment appelez-vous le mal qui a surpris notre ami ? Ne pouvez-vous y appliquer une des 3000 dénominations dont vous habillez votre ignorance ? Des cas semblables n'ont pas manqué, sans doute. Il s'en trouve un pareil, poursuivit-il avec emphase, dans l'histoire d'Égypte ou de Babylone. » On se regardait en souriant. « Comment s'appelait ce roi ? Poursuivit-il, et il s'arrêta un moment. Puis, reprenant la parole, « Si vous ne voulez pas venir à mon secours, je saurai bien m'en tirer moi-même. » En parlant ainsi, il ouvrit brusquement les deux battants de la porte et, indiquant du doigt le grand tableau du vestibule, « Comment appelez-vous ce roi à longue barbe qui se désole au pied du lit de son fils malade ? Comment s'appelle la jeune beauté qui entre dans la salle et qui porte dans ses yeux fripons et modestes le poison et l'antidote ? Comment se nomme le bélitre de médecin qu'un trait de lumière éclaire enfin dans ce moment et qui trouve, pour la première fois de sa vie, l'occasion de prescrire une ordonnance raisonnable, d'offrir un remède qui guérit radicalement et qui est aussi agréable que salutaire ? » Frédéric continua sur ce ton ses plaisanteries. La société faisait aussi bonne contenance qu'elle pouvait et cachait son embarras sous un rire forcé. Une légère rougeur couvrit les joues de Nathalie et trahit les mouvements de son cœur. Heureusement, elle se promenait dans le salon avec Jarno. Quand elle fut près de la porte, elle sortit doucement, fit quelques tours dans le vestibule et se retira chez elle. La compagnie gardait le silence. Frédéric se mit à danser et à chanter. « Oh, vous verrez des merveilles ! Ce qui est fait, ce qui est dit !» « Avant que le jour brille, vous verrez des merveilles. » Thérèse avait suivi Nathalie. Frédéric entraîna le docteur devant le grand tableau, fit une risible apologie de la médecine et s'éclipsa. Lothair s'était tenu jusqu'alors dans l'embrasure d'une fenêtre, et, restant immobile, il regardait dans le jardin. Wilhelm était dans la plus affreuse situation. Et même alors, se trouvant seul avec son ami, il garda quelque temps le silence. Il passa rapidement en revue sa vie passée. Enfin, jetant les yeux avec effroi sur sa position présente, il se leva brusquement de son siège et s'écria. « Si je suis coupable de cet incident, de ce qui nous arrive à l'un et à l'autre, punissez-moi. Pour mettre le comble à mes souffrances, retirez-moi votre amitié et laissez-moi, sans consolation, errer dans le monde, où j'aurais dû disparaître depuis longtemps. Mais si vous voyez en moi la victime d'une complication fortuite et cruelle, d'où je ne pouvais me dégager, donnez-moi l'assurance que votre affection, votre amitié, me suivra dans un voyage que je n'ose plus différer. Un jour viendra où je pourrai vous dire ce que j'éprouve maintenant. Peut-être suis-je puni pour ne m'être pas ouvert à vous assez tôt, pour avoir différé de me montrer à vous sans réserve, tel que je suis. Vous m'auriez secouru, vous m'auriez délivré à propos. Mais encore, encore aujourd'hui, j'ouvre les yeux sur moi-même, toujours trop tard, toujours en vain. Comme je méritais la censure de Jarnot, comme je croyais l'avoir comprise, comme j'espérais la mettre à profit et commencer une vie nouvelle. Le pouvais-je? Était-ce mon devoir? C'est en vain que les hommes s'accusent eux-mêmes, qu'ils accusent la destinée. Nous sommes malheureux et nés pour le malheur. Et n'est-ce pas absolument égal que notre propre faute, une influence supérieure ou le hasard, la vertu ou le vice, la sagesse ou la folie nous précipitent dans l'abîme? Adieu. Je ne resterai pas un moment de plus dans la maison où, malgré moi, j'ai violé si affreusement les droits de l'hospitalité. L'indiscrétion de votre frère est impardonnable. Elle met le comble à mon malheur. Elle me réduit au désespoir. Et que diriez-vous, répondit Lothair en lui prenant la main, si votre union avec ma sœur était la condition secrète sous laquelle Thérèse a résolu de se donner à moi? La noble fille a imaginé de vous offrir ce dédommagement. Elle a juré que les deux couples marcheraient le même jour à l'autel. « Sa raison m'a choisie, dit-elle. Son cœur demande Nathalie, et ma raison viendra au secours de son cœur. Nous sommes convenus de vous observer, vous et Nathalie. Nous avons mis l'abbé dans notre confidence, et nous avons dû lui promettre de ne faire aucune démarche pour avancer cette union, et de laisser les choses suivre leur cours. Nous avons obéi, la nature a fait son œuvre, et mon étourdi de frère n'a fait que secouer le fruit mûr. Puisque nous sommes si merveilleusement réunis, sachons nous créer une vie qui sorte de la ligne commune. Déployons ensemble une honorable activité. On ne saurait croire tout ce qu'un homme éclairé peut faire pour lui-même et pour les autres, lorsque, sans vouloir dominer, il prend plaisir à être le tuteur de beaucoup de gens, les engage à faire, en temps opportun, ce qu'au fond ils feraient tous volontiers, et les mène à leur but, qu'ils voient la plupart fort bien devant eux, mais dont ils manquent le chemin. Formons dans ce dessein une alliance. Ce n'est point une rêverie, c'est une idée parfaitement exécutable, et que de nobles cœurs ont souvent réalisée, mais sans en avoir toujours une idée claire. Ma sœur Nathalie en est un exemple frappant. Il sera toujours impossible d'égaler l'activité bienfaisante dont la nature a doué cette belle âme. Oui, elle mérite ce titre d'honneur plus que personne. Plus, si j'ose le dire, que notre noble tante elle-même, qui, dans le temps où notre bon docteur mit en ordre son manuscrit, était le plus beau caractère de notre famille. Dans l'intervalle, Nathalie s'est développée et l'humanité se glorifie de l'avoir produite. Lothair allait poursuivre quand Frédéric accourut en poussant des cris de joie. « Quelle couronne ai-je méritée? Et comment me récompenserez-vous? Tressez le myrte, le laurier, le lierre, le chêne le plus frais que vous pourrez trouver. vous avez tant de mérite à couronner en moi. Wilhelm, Nathalie est à toi. Je suis l'enchanteur qui a découvert ce trésor. »
Il extravague, dit Wilhelm. Je m'enfuis.
As-tu des ordres ? Dit le baron à son frère en retenant Wilhelm.
Je parle de ma propre autorité, répliqua Frédéric, et aussi par la grâce de Dieu, si vous voulez. Comme j'étais courtier de mariage, maintenant je suis ambassadeur. J'ai écouté à la porte. Elle a tout confessé à l'abbé.
Impudent ! S'écria Lothair. Qui t'ordonnait d'écouter ?
Qui leur ordonnait de s'enfermer ? J'ai tout entendu parfaitement. Nathalie était fort émue. Dans la nuit où Félix parut si malade et reposait à moitié sur ses genoux, lorsque tu étais assis, inconsolable, devant elle, et que tu partageais avec elle le fardeau chéri, elle fit vœu, si l'enfant mourait, de t'avouer son amour et de t'offrir elle-même sa main. L'enfant vit. Pourquoi changerait-elle de sentiment ? Ce qu'on a promis de la sorte une fois, on le tient, quoi qu'il arrive. À présent, le tonsuré va paraître, et il croira nous annoncer des merveilles. »
L'abbé entra dans la chambre.
« Nous savons tout !» lui cria Frédéric. « Abrégeons, car vous ne venez plus que pour les formalités. C'est tout ce qu'on demande à nos révérends. »
« Il a écouté !» dit le baron.
« L'impertinent !» s'écria l'abbé.
« Vite !» reprit Frédéric. « À quoi se réduisent les cérémonies ? On les peut compter sur les doigts. Vous allez voyager. L'invitation du marquis vient fort à propos. Une fois que vous aurez passé les Alpes, tout s'arrangera chez nous. Les gens vous sauront gré si vous faites quelque entreprise extraordinaire. Vous leur procurez une distraction qui ne leur coûte rien. C'est comme si vous donniez un bal public. Tous les rangs peuvent y prendre part. »
« Vous avez déjà procuré souvent au public de ces fêtes populaires, » repartit l'abbé, « et il paraît qu'aujourd'hui, je ne pourrais placer un mot. »«
Si tout n'est pas comme j'ai dit, » répliqua Frédéric, « dites mieux que moi. Venez chez elle, venez, allons la voir et nous réjouir. »
Lothair embrassa son ami et le conduisit chez Nathalie. Elle vint au-devant d'eux avec Thérèse, tout le monde gardait le silence.
« Point de lenteur, » dit Frédéric, « il faut que vous soyez prêt à partir dans 2 jours. Qu'en dites-vous, mon ami ? » poursuivit-il en s'adressant à Wilhelm.
« Quand nous fîmes connaissance, quand je vous demandais ce joli bouquet, qui aurait pu croire que vous recevriez un jour de ma main une pareille fleur ?
Veuillez, dans ce moment de bonheur suprême, ne pas me rappeler ce temps-là.
Et vous ne devez pas en rougir. Pas plus qu'on ne doit rougir de sa naissance. Ce temps était bon, et je ne puis te regarder sans rire. Il me semble voir Saül, le fils de Cis, qui partit pour chercher les ânesses de son père et qui trouva un royaume. »
Je ne sais pas ce que vaut un royaume, répondit Wilhelm, mais je sais que j'ai obtenu un bonheur dont je ne suis pas digne, et que je ne changerai pas contre tout l'univers.